RMC.
Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
Football Show.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Nicolas Villas.
Soyez les bienvenus dans l'After, c'est parti pour 3 heures d'After, grand After en ce lundi, car il n'y a pas de match, pas de championnat, il y a des matchs internationaux, il y a la Ligue des Nations notamment, on vous donnera tous ces résultats dans quelques instants. Avec nous ce soir, il est beau, il a très bonne mine d'ailleurs, Daniel Riolo, bonsoir.
Oh, bonsoir les amis.
Non, il s'était tout bronzé.
Il a fait beau toute la semaine, il suffit d'être dehors 2 minutes et voilà.
C'est vrai. Mais aussi les beaux, il est moins bronzé.
Un sport de plein air.
J'ai pas de Pierre Ducrot. Bah moi je bosse.
On a tous 2 heures pour faire du sport.
Franchement, sincèrement non. Pas cette semaine.
Attends, t'as été te la couler douce à Lille, t'as pas mangé en terrasse à Lille peut-être?
Ah non, on était pas en terrasse, non.
Eh bah c'est ton problème, t'as
un peu de terrasse ici. Bah faut mettre dehors, mon vieux.
Il faisait très beau d'ailleurs.
Plein de petits cafés sur les terrasses à Lille.
J'embrasse ce resto portugais du côté de Tourcoing d'ailleurs.
En même temps, il faut quand même dire que aimer le soleil, c'est aussi un caractère. Toi, tu m'as dit l'autre fois là quand t'es parti en vacances, je sais plus où, t'aimes pas te mettre au soleil, pas profiter. Mais non, l'autre fois t'es parti au soleil, t'es resté sous le parasol pendant 2 semaines.
T'es revenu, t'as une tête d'aspirine. Non, disons que je me mets pas continuellement au soleil, c'est pas bon pour la peau.
Non, mais bien sûr, mais après on peut aimer le
soleil. Non, j'adore être à la plage, j'aime bien être dans l'eau, etc. Mais c'est vrai qu'être en plein cagnard comme ça.
Donc c'est des caractères et tout.
Ouais, voilà. Moi je te juge pas, je te trouve beau.
C'est comme Pierre, il a le droit d'aller en République Dominicaine quand c'est pas la saison.
Ça faisait longtemps.
Non, moi je bronze quand je vais voir des matchs de U15, de U17.
Tu vas aller où en vacances prochainement?
Il est pas impossible, je réfléchis à imiter Pierre, parce que moi, quand les gens me donnent des bons conseils, je les écoute.
Non, puis en plus, c'est une autre période. Donc là, ton argument de le...
Messieurs, le sommaire de cet after dans quelques instants. Rappel, un grand after de 3 heures ce soir. La vie tranchée de Pierre Ducrot qui ne comprend pas pourquoi Didier Deschamps continue de miser sur Olivier Giroud. Vous l'aurez compris, le sommaire est à la bourre. Avis tranché de Daniel Riolo qui n'en peut plus.
Là, pour le coup, ce single est parfait.
De cette obsession envers le ballon d'or. La foire aux questions des drôles de dames sur les sélections. Alors voilà, hashtag DD foire aux questions au pluriel. Alors pas de Simone Rovera qui est souffrant. Il n'est pas là ce soir, mais il sera avec nous demain.
Il est malade.
On l'embrasse d'ailleurs.
Simone, on te fait des bisous.
Il est souffrant. Souffrant, Simone.
Tu trouves?
Il a une petite santé.
En ce moment, il est pas très bien en ce moment.
Ouais, ou alors il est pas ménagé et du coup, tu sais, tu chopes tous les microbes, etc.
Ah oui, bien sûr.
Tu sais que sa fille a été malade, il dort pas beaucoup.
Il chope les petits microbes.
Les infos du jour et puis le quiz. Inscrivez-vous d'ores et déjà au 32-16 pour faire le quiz avec nous. Je vous donne quelques résultats de la Ligue des Nations. Ça vient de démarrer entre la Pologne et l'Italie.
Ce soir?
Non. Ah non, c'est vrai, j'ai oublié, tiens.
Non, c'est le lundi.
Ah non, c'est le lundi de manière.
Oui, c'est demain d'ailleurs, faudra pas que j'oublie. 0-0 entre la Pologne et l'Italie après 13 minutes de jeu dans le Portugal qui est dans le groupe de la Pologne et l'Italie. S'est imposé 3 en amical en Écosse. But d'Eder, les mecs. Elder Costa.
Il est là, Eder.
Ouais. Il est de retour.
Il est revenu.
Premier but depuis la finale de l'Euro pour Eder. Et sachez que si la Pologne et l'Italie font match nul, le Portugal est qualifié pour le Final Four de la Ligue des Nations. Qu'est-ce qu'on leur met, bordel.
La Russie qui a été gagnée.
La Russie s'est imposée 2-0 face à la Turquie. Ça joue entre Israël et l'Albanie, 1-0 pour l'instant pour Israël. 0-0 entre la Roumanie et la Serbie. Le Monténégro mène après 16 minutes de jeu en Lituanie, 1-0. Dans la Ligue D, un partout entre les îles Féro et le Kosovo et un partout entre l'Azerbaïdjan et Malte. Voilà, pour être complet dans cette Ligue
des Nations. Tu sais qui a marqué pour Malte? Ça m'intéresse.
Ah ouais, pourquoi? T'as des joueurs là-bas ou quoi? C'est Muscat.
Ah, c'est Muscat.
Voilà.
Un petit Muscat, j'aime bien. Dans mon sommaire, il manque un petit élément parce que j'avoue être un petit peu déstabilisé ce soir puisque nous avons ce grand after de 3 heures et que le dimanche, logiquement, à la mi-temps de nuages de foot.
Ah oui, c'est Poker Show. Tu penses bien. On va teaser le c'est Poker Show.
Qu'est-ce qu'on va faire après l'after?
C'est prévu, Jérôme Thomas.
À quelle heure ça va tomber?
Jérôme Thomas, à quelle heure ça va tomber? 22h15, 22h20.
Ah,
il est à tout près.
Est-ce qu'on peut pas faire ça à 21h45 comme d'habitude pour que Daniel soit pas perturbé?
Ce serait pas mal.
Ouais.
On peut l'avancer, me dit Jérôme.
Si 21h45, 50,
c'est possible.
S'il y a un trou dans les débats, si un petit temps mort, quelque chose, tu vois, hop là, hop, on relance.
Voilà, sachez.
Après, on a du lourd en invité, des meilleurs joueurs.
Jérôme Thomas me fait signe, on a un petit son qui nous vient en direct du cabinet médical où est Simone Rovera en ce moment même.
Ah. Vous voulez un soin? Vous voulez un soin ou ça va aller?
Le pauvre Simone.
N'importe quoi. Tiens, autre résultat important également, cousin, t'es au courant?
Bah bien sûr.
Cinquième tour de Coupe de France.
Attends.
Verneuil-sur-Seine à taper Argenteuil.
Bim, 3-1.
Allez hop. Et hop là.
Allez, facile, hein, là, pas trop longue, rien, non. Allez hop.
Ils veulent qu'on aille faire un affaire là-bas. C'est des grands malades, les mecs. Bref,
ça a l'air de vous passionner, cette affaire-là.
Bah, c'est chez nous.
Bah, c'est chez nous.
Ah, pardon.
Ah,
oui.
Club, moi, c'est le club où.
T'es de Verneuil, toi.
Où Nico. Non, mais mon fils joue à Verneuil.
Mon fils joue là-bas. Et moi j'ai de la famille là-bas.
Pardon, les gars, si vous avez des trucs privés comme ça,
c'est
vous
pas privé, avez envie
de dire. Ça reste un parcours de France qui va t'intéresser parce qu'ils vont aller chez une Ligue 2 bientôt, hein, tu vas voir.
Très bien,
Coupe de France, ils seront en 6e tour de Coupe de France. Premier débat dans cet after qui concerne la Ligue des Nations. Les gars, on va essayer un truc. Je vous lance un appel au 32-16, on va essayer de vous réexpliquer le fonctionnement de cette Ligue des Nations. Rappel du fonctionnement. La Ligue des Nations se dispute tous les 2 ans. 55 nations réparties dans 4 ligues, A, B, C et D. Dans chaque ligue, t'as 4 groupes. Dans la ligue A, le vainqueur
là,
de chaque groupe...
Franchement, tu vas vite là.
Ah non, attends, pour l'instant ça va. Ok, t'as 55 nations réparties dans 4 ligues, A, B, C, D. Dans chaque ligue, t'as 4 groupes. Ok ? Tu me suis jusqu'à là ou pas ?
Dans chaque ligue.
Non, t'as des ligues,
ligue,
A, B, C, D.
Ligue, A,
dans
B,
la
C,
ligue, après t'as des groupes. 1, 2, 3, 4.
T'as 4 groupes dans chaque ligue. Et t'as 4 ligues.
Il a déjà perdu.
Ah d'accord.
Ça y est,
Daniel, je te le donne. Voilà.
Non mais c'est quoi ? Interromps-nous dès que tu comprends pas. Je sens que ça va être long.
Ah Ligue 1, c'est d'accord. Je croyais que c'était le nom des groupes.
Non, ligue, c'est la ligue justement. Dans les ligues, t'as des groupes.
Ah, c'est genre en première, deuxième division.
Dans la
c'est
Ligue
ça.
A,
c'est ça.
Le vainqueur de chaque groupe se qualifie pour le Final Four qui aura lieu en juin prochain. Ok ? Ça concerne que la Ligue A. Le vainqueur de ce Final Four remportera la première édition de la Ligue des Nations, mais qui n'est un titre honorifique. C'est-à-dire que le vainqueur de la Ligue des Nations, il sera pas qualifié pour l'Euro 2020 pour juin prochain.
Ouais.
Sachez-le ça, ça c'est important. Retenez-le bien.
Depuis le début, on n'arrête pas de nous dire que le vainqueur
non,
de ça...
Non, je vais t'expliquer. Va... Non. Le vainqueur de la Ligue des Nations...
Ça sert à quoi de la gagner ?
10 millions et demi d'euros à la clé. Voilà à quoi ça sert en 3 mois. Voilà, il y a un grand intérêt économique.
C'est réparti les primes aux joueurs, ça ?
Ouais, bah,
Fédé et tout.
Voilà, la Fédé, on fait ce qu'il veut.
Ouais, après, mais on va dire qu'ils vont prendre un petit steak.
Le premier de chaque groupe des ligues B, C et D monte dans la ligue supérieure. Et les derniers de chaque groupe descendent donc dans la ligue inférieure.
Et qu'est-ce qui se passe pour les derniers de la ligue D, alors?
Ah, bah, ils restent en ligue D. Ils vont pas descendre.
Ouais, pour autant, il n'y a pas de ligue encore.
Alors, intérêt sportif quand même de cette Ligue des Nations, c'est là qu'on y vient, c'est qu'il y a 4 places qualificatives pour l'Euro 2020. En gros, en mars 2020, il y aura des barrages qui seront disputés entre les premiers de chaque groupe dans chaque ligue. Sauf, et c'est là où ça devient un vrai bordel, c'est que dans la Ligue A, par exemple, si les premiers de chaque groupe sont déjà qualifiés pour l'Euro, en fait, eux, ils dégagent puisqu'ils sont déjà qualifiés, et c'est l'équipe qui est classée en dessous qui prend la place.
Donc la phase d'éliminatoire de l'Euro prédomine sur le.
En fait, t'as 20 places qualifiées.
La Ligue des Nations.
En fait, les éliminatoires classiques. Mais t'as 20 places.
Quand les éliminatoires?
Les éliminatoires, c'est juste avant, en fait, justement.
Mais quand?
Bah c'est entre ça se finit avant début 2020 quoi, fin 2019.
Est-ce qu'on a le nom du mec qui a inventé ça?
Bah je sais pas, mais les gars, franchement, c'est des balèzes hein les gars.
Oh, il est pas tout seul, ils sont plusieurs là.
Ouais, ils sont
Tu peux pas imaginer ça tout seul.
On est d'accord que c'est absurde.
Bah c'est assez nul. Bah en fait l'avantage que t'as, c'est que ça veut dire et c'est là où Platini
est capable de le réexpliquer sans lire les notes.
Pourquoi, non, mais j'ai
pourquoi
pas
celui
notes, hein.
Pourquoi celui qui gagne la Ligue des Nations n'a pas une place qualifiée?
Parce qu'il l'aura peut-être déjà.
Oui, mais s'il ne l'a pas, s'il ne l'a pas.
Bah s'il l'a pas, il jouera les barrages.
Il prend 10 cas.
Ouais, mais il devrait pas jouer les barrages, il devrait être qualifié, le mec, enfin la nation gagne la Ligue des Nations, cette compétition suprême en Europe.
Déjà, on
et il est pas qualifié pour l'Euro.
Tu vas pas nous faire chier avec.
Putain,
comment
c'est pas
ça
moi qui évolue.
Marcher.
Ah mais c'est pas cohérent leur truc.
Le tu veux.
Bon, moi j'ai compris le système en tout cas. On
mais
en a parlé un peu cet après-midi. Du coup,
je comprends ce que
mais
tu veux dire.
C'est pas cohérent.
En fait, l'UEFA part du principe que la nation qui aura remporté la Ligue des Nations la première édition là, elle sera déjà qualifiée via les éliminatoires dits classiques si tu veux.
Donc elle veut pas que ça bouffe.
Alors l'avantage qu'elle, c'est
parce que les éliminatoires ils sont avant le mois de juin.
Non.
Normalement, ça durera deux ans.
Non, mois de juin, c'est le Final Four. C'est ce que je viens de te dire. Le Final Four,
avant le mois de juin,
que la Ligue
A. 2019 ou 2020, tu parles?
2019.
Mais non, 2019, on vient de te dire, la Ligue des Nations, le vainqueur de la Ligue A, le vainqueur de la Ligue des Nations, en fait, c'est honorifique.
Non, mais les éliminatoires, ils sont pas avant juin 2019. On est, il y a un an avant l'Euro,
Non.
Normalement, ils sont l'année avant l'Euro. Ils sont étalés sur un an et demi.
Ouais, bah, c'est ça.
Ouais, un an et demi, ça va finir en février-mars, non? C'est pas ça?
Ouais, c'est à peu près ça.
Ouais, c'est ça.
Juste avant mars, quoi.
2020?
Ouais.
Mais normalement, le tirage au sort, c'est toujours en décembre de l'année qui précède la compète.
T'es sûr?
Bah évidemment, la Coupe du Monde, le tirage, c'est en décembre. C'est toujours en décembre.
Mais là, ils ont décalé une partie des dates pour ça, justement.
Oui, parce que
mais
sinon,
le fait
sinon,
est...
T'as pas le
ils vont faire le tirage plus tard.
En fait, si tu veux, à la limite, j'ai envie de te dire, la question n'est pas là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la Ligue des Nations, voilà, tu peux, t'as 4 places qualificatives pour l'Euro 2020 et t'en as une dans chaque ligue. Ce qui veut dire que le vainqueur de la Ligue D, du barrage de la Ligue D, il sera qualifié pour l'Euro. T'auras une petite nation. Et c'est ce qui tenait à cœur à Michel Platini, qui a eu l'idée de ça, hein. Ça, tout ça, ça vient de l'initiative de Michel Platini. Je te dis pas que c'est lui qui a dessiné tout le calendrier.
Ah non, ça, je pense pas, non.
Voilà. Mais lui, il voulait absolument ça. Ouais. C'est-à-dire que t'auras un petit pays qui sera qualifié pour la phase finale de l'Euro 2020. Est-ce que vous avez saisi un peu le fonctionnement du délire?
Forcément, parce qu'il va, tu me dis que le premier de la Ligue D va faire le barrage, mais il peut être éliminé en barrage.
Mais non. Les premiers de chaque groupe de Ligue D, ils font le barrage de la Ligue D.
Ouais.
Le vainqueur du barrage de la Ligue D, il va à l'Euro.
Ah, il y va forcément, ok.
En fait, t'as un barrage par ligue.
Donc, le vainqueur du groupe des petits,
c'est
imagine
le, Kosovo,
le chapeau,
en gros, quoi.
Le chapeau 4 de la Ligue
Arménie,
des Champions.
Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Andorre.
Il y va, quoi.
Bim. Voilà.
Voilà. Ouais. Et en fait, voilà. Donc, t'as le premier de chaque groupe qui fait un barrage dans la Ligue D, et le vainqueur de ce barrage, ça se joue en demi-finale, finale, sur 4 jours, je crois, et ben, il sera qualifié pour la phase finale de l'Euro.
C'est bien. C'est bien, sauf que le but normalement des éliminatoires de l'Euro, c'est d'avoir les meilleurs du moment normalement à l'Euro, ou en tout cas ceux qui sont qualifiés. Donc là,
il
part du principe que ce sera qualifié autrement que dans les éliminatoires.
Voilà, il part du principe que c'est bien. Ils ouvrent, comme il y a plus d'équipes qualifiées maintenant, ils ouvrent un peu les qualifs pour à d'autres nations aussi, et notamment à des plus petites. Et sincèrement, appelez-nous au 32-16 si vous avez toujours pas capté.
Ça peut avoir un bon côté, ça peut avoir un côté un peu plus négatif.
Franchement. Alors je sais pas si c'est parce que je bloque ou si c'est parce que je suis un peu con, et c'est vrai que pour comprendre ces choses-là, j'ai jamais été très fort.
C'est sûr.
Mais j'ai pas tout compris.
Alors vas-y, qu'est-ce que t'as pas... Non mais dis-le.
Je vais te dire. Et très franchement, je m'en fous.
Tu t'en fous. Je savais qu'il allait dire ça.
Je m'en fous de pas comprendre parce que
c'est trop compliqué. Ouais.
Non mais
ça rend pas le truc très accessible et intéressant.
Non, mais on voit des équipes qui jouent des matchs amicaux qui sont plus vraiment des matchs amicaux. Je crois que la majorité des joueurs ne comprend pas réellement. Ils avancent dans cette compète qui n'en est pas vraiment une. Bon, il y a peut-être un peu de blé, il y a qu'un titre honorifique.
Daniel,
au final, quand les joueurs vont arriver, qu'on va leur dire bon ben là, en revanche, il faut gagner les matchs. Parce que c'est pour ça que Mancini, par exemple, de l'Italie, disait mais nous on s'en fout si on doit descendre. Enfin, il disait pas exactement ça, mais en sous-entendu, on s'en fout si on descend en Ligue B, parce que le vainqueur de la grande Ligue B là,
il a
sa chance d'aller à l'Euro aussi. Donc, limite, ça peut même être une stratégie de descendre.
Ah bah si tu descends en Ligue D.
Bah tiens,
mais sauf, mieux, que ça prendre, sauf que ça prendra du temps. Tu vois, le prochain Euro sera dans 4 ans.
Oui, non, mais on plaisante.
Quoi qu'il en soit,
qu'un France-Allemagne en Ligue des Nations ou un France-Allemagne amical, pour moi, les joueurs, ils vont jouer exactement pareil. Ouais,
alors justement, ouvrons le débat de l'intérêt que peut avoir ou pas d'ailleurs.
Tout ça est très artificiel.
Déclaration de Jürgen Klopp il y a quelques jours, alors qui a lancé le débat d'ailleurs sur l'intérêt ou pas d'ailleurs de cette Ligue des Nations. Il a déclaré, le manager de Liverpool, les joueurs s'en vont malheureusement encore et doivent jouer des matchs de Ligue des Nations, la compétition la plus insensée dans le monde du football. Nous espérons qu'ils vont revenir en bonne santé et jouer ces compétitions faciles que sont la Première Ligue et la Ligue des Champions. Il était un peu ironique, bien entendu.
Non, mais il a raison sur la compétition insensée. Après,
sauf qu'il serait parti quand même pour faire deux matchs amicaux avec l'Andation.
Exactement. Donc lui, voilà, il y a un peu deux choses dans sa phrase. Il y a la complainte assez classique et maintes fois entendue des sélectionneurs, c'est vieux comme le monde ça, qui se plaignent un peu quand un joueur va jouer des matchs amicaux qui servent à rien parce qu'ils ont ces entraîneurs-là ont peur que les joueurs se blessent. Ça, ok, ça c'est petit A. Et petit B, bon, il ajoute qu'en plus, c'est une compétition insensée. Et là-dessus, je le rejoins. Ce sont des matchs amicaux. Mais rien de plus, quoi.
Alors, dans quelques instants, on va poursuivre ce débat avec notamment la réponse de Joachim Löw à cela. On va écouter Blaise Matuidi également, parce que vous allez voir que ça divise aussi chez les joueurs. Ouais. Il y en a qui trouvent ça bien, d'autres qui trouvent ça moins bien. On vous attend au 32-16 pour nous dire si ça vous intéresse ou pas.
Il y a un langage que tu peux pas tenir en plus.
Il y en a certains qui démontent quand même.
Mais tu sais, c'est des matchs amicaux habillés.
Ouais, c'est
avant
ça.
C'était tu faisais ton match
qui rapporte de l'oseille,
en fait. Qui rapporte de l'argent,
là, rapporte beaucoup là, il y a un habillage, et l'habillage, c'est habillage compétition parce que t'es dans un groupe avec des équipes que tu retrouves deux fois. Toi, la France va jouer deux fois l'Allemagne
et deux fois
les Pays-Bas. Donc, t'as l'impression que c'est habillé comme une compétition. Bon, voilà, c'est tout, c'est de l'artifice pour moi.
La suite de ce débat sur la Ligue des Nations, c'est juste après ça. À tout de suite.
RMC Football Show. L'afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie de Pierre Ducrot et de Daniel Riolo, on a essayé de vous réexpliquer le fonctionnement de la Ligue des Nations.
Non, tu l'as bien fait, t'as pas essayé, t'as réussi.
Très bon, mais on s'en fout un peu tes explications.
Tu nous as pas convaincu.
Sinon, Pologne-Italie, il y a toujours 0-0.
Il y a toujours 0-0, c'est vrai.
Moyen. Enfin, très moyen.
On a lu la déclaration de Jürgen Klopp qui expliquait que la Ligue des Nations était complètement insensée. Réponse de son compatriote Joachim Löw, sélectionneur de l'Allemagne. En tant que sélectionneur, la Ligue des Nations est une bonne invention, a-t-il déclaré. Nous jouons contre des équipes de top dans des matchs qui comptent. Alors c'est vrai que ça change finalement des matchs amicaux pour les sélectionneurs et notamment pour Joachim Löw.
Parce que t'as déjà vu l'Allemagne ou la France aller faire des matchs amicaux contre Andorre, contre Kazakhstan, Moldavie, etc. En général, les équipes s'affrontent à peu près.
Non, mais là, c'est vraiment de ton niveau, là, amical. Pour le coup. Et puis, ça arrive, ouais, avant les Coupes du Monde et tout.
Pas énormément.
Et alors, ça divise aussi chez les joueurs. Hier, Blaise Matuidi était en conférence de presse. Il va dans le sens de Joachim Löw. Pour lui, la Ligue des Nations, elle a un réel intérêt. Écoutez-le.
Il y a un trophée à la fin. Donc, ça change tout. C'est un trophée à aller chercher. Et justement, on fait du foot pour avoir des trophées, voilà, dans notre carrière, c'est ce qui reste. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on porte quand même le maillot bleu. Déjà que lorsqu'on joue des matchs amicaux pour nous, lorsque c'est en équipe nationale, ça reste des matchs internationaux. Donc on joue les matchs à fond. Et puis là, il y a un trophée à aller chercher. Donc bien sûr qu'on est concentré là-dessus.
Voilà, alors Blaise Matuidi, alors toi, oui. Tu dis quoi, Pierre?
Le trophée à aller chercher, ça aussi, c'est artificiel. Le trophée, ça peut être aussi une coupe de plage. C'est le trophée, s'il est en bois, il est en bois, quoi.
Et puis, il dit un peu noir et un peu blanc après, quoi. Il te dit quand même après que derrière, de toute manière, quand tu portes le maillot de l'équipe de France, déjà quand c'est un match amical, tu te dois de tout donner. Je suis pas persuadé que le trophée de la Ligue des Nations, alors à moins que ça prenne une ampleur phénoménale dans les années à venir, je suis pas persuadé que ce soit une priorité pour les joueurs, notamment des nations comme la France, la Belgique, l'Italie, etc., etc. Pour les autres petits, c'est différent.
Mais toi qui as toujours inventé des trucs, mais au fond, c'est un peu comme dans le tennis aujourd'hui où tu as ce grand débat d'ailleurs ouvert qui est même plus un débat maintenant par Gérard Piqué là, qui va créer une autre Coupe Davis, qui va être confronté à la World Cup. Ouais, il y a une telle ouverture sur de nouvelles compétitions. Au final, tu vas faire quoi? Tu vas te recentrer. Les joueurs vont faire plein de matchs, mais ils vont se recentrer sur l'histoire. Et l'histoire, c'est quoi? Les tournois du Grand Chelem. Et dans le foot, c'est pareil. Tu peux toujours aller créer une Ligue des Nations, une Coupe des Confédérations, tout ce genre d'artifice. Au final, le joueur.
Mais Coupe de la Ligue, ça te qualifie pour l'Europe. Il y a quand même un enjeu là au bout.
Oui,
il y
a. Voilà. Disons qu'on a amélioré l'artifice. T'as raison là-dessus. Vrai. Mais au final. Le joueur, ce qu'il veut, c'est aller à l'Euro, aller à la Coupe du Monde pour ce qui est de quand il a le maillot de l'équipe nationale, et quand il est en club, le championnat en 1, la Coupe d'Europe, et puis les coupes nationales pour les équipes qu'ils n'ont pas gagnées depuis longtemps. Enfin, bref, voilà. Et dans l'ordre, toujours Coupe de France, Coupe de la Ligue, c'est devenu un intérêt surtout financier, comme tu dis. Il y a le côté on va en Coupe d'Europe. Voilà. Mais bon.
Après, alors tu disais toi, Pierre, Matuidi, il a un peu un discours de façade, de circonstance institutionnelle.
Il peut pas dire autre chose.
Il va pas dire.
Regardez ce qu'a dit Dejan Lovren. Alors il va dans le sens de son manager Jürgen Klopp. Il dit la Ligue des Nations est une compétition ridicule. Il n'y a aucun intérêt à jouer ces matchs. Ce n'est pas une véritable compétition qu'il faut gagner. Vous pouvez appeler ces matchs comme vous le voulez, mais le fait est qu'il s'agit de matchs amicaux.
Alors lui, c'est la différence entre langue de bois et honnêteté.
Et défenseur central à Liverpool.
Et Lovren est plutôt pas vraiment langue de bois. Comme Matuidi, comme beaucoup de joueurs je lui reproche pas, ça reste lisse.
On va accueillir Guillaume, les gars, supporter de l'OM et de l'équipe de France, je présume. Guillaume qui nous a appelé au 32-16 pour évoquer.
Il est de plus en plus loin à l'écran, tu vois.
Mes bras qui sont de plus en plus petits.
Je sais pas ce qui se passe.
Ou c'est l'écran qui est de plus en plus grand. Salut Guillaume.
Salut, bonsoir tout le monde.
Bonsoir Guillaume.
Alors Guillaume, avant que tu commences, il faut réellement, c'est très important, vous n'étiez pas là tous les deux cette semaine. Maintenant, quand des supporters de l'OM appellent, il faut un contrôle.
C'est-à-dire ?
C'est le contrôle des papiers.
Pourquoi ?
Est-ce que tu es un vrai supporter de l'OM ?
Oui, enfin bon.
Tu comprends à quoi je fais allusion ou pas ?
Moi, j'ai pas compris.
Non, mais géographiquement, tu pourrais le contester, mais...
Non, parce que je crois que c'était jeudi soir... on parlait de Mbappé et un auditeur qui a dit et a priori
un
mec me dit supporter l'OM, je veux pas en douter, tu vois,
qu'il adorait l'OM,
justement je veux pas faire un contrôle des papiers,
un maillot de Mbappé à sa fille,
il dit ouais, mais Mbappé il transcende la rivalité, je peux offrir un maillot de Mbappé à ma fille, même je souhaite au PSG de gagner les matchs en Coupe d'Europe parce que Mbappé machin suit cela. Oh là là, le pauvre, ce qu'il a pris. Et nous on a pris comme quoi on magouillait les auditeurs.
Ah ouais, On les a truqués, en fait. On les a truqués.
Ça ne m'étonnerait pas, monsieur Riolo.
Ah, arrête. Même ce genre de blague ne fait pas parce que les gens croient vraiment ce genre de conneries. Donc,
comme quoi, et en fait,
je crois qu'il s'appelait Mousse, si je me souviens bien de son prénom.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Mais qu'est-ce qu'il a pris? Qu'est-ce qu'on a pris? Comme quoi, c'est pas possible, c'est pas un vrai, c'est un faux, c'est un traître. Et puis, nous, on a magouillé, on prend que des tocards, qui nous représentent pas et tout. Bah, mais les gars, vous avez qu'à téléphoner si vous vous représentez. Si vous, vous êtes les vrais représentants.
Ouais, je l'ai entendu en direct. Ça,
voilà. Bon, ouais, enfin bref, excuse-moi.
Mbappé, je l'adore en équipe de France, en pointe, pour que Thauvin puisse jouer à droite.
Voilà.
D'accord.
Alors revenons sur la Ligue des Nations, Guillaume. Est-ce que toi, pour toi, elle a un vrai intérêt cette compétition, ou alors pas du tout, tu t'en fous?
Non, moi je ne suis pas langue de bois et j'adore cette compétition.
Ah ouais, alors vas-y, déroule.
Alors que ceux qui les a... Parce que moi quand j'ai entendu ton présentation, Nico, tu t'es donné à fond.
Mais j'ai tout donné, mon pote, ouais.
On va dire que t'es un petit peu peut-être comme Daniel, ou comme hier, t'es pas fan, donc, enfin, tu t'as pas essayé, t'es impliqué, donc t'as. En fait, la façon dont tu l'as expliqué me donne pas envie à moi.
Guillaume, je vais être honnête avec toi. Moi, j'aime bien la compète, je préfère ça au match amico, mais je te promets que c'est vrai. Dans la rédac, on a fait le test. Va demander à un mec de t'expliquer le fonctionnement de la Ligue des Nations. Même pour nous, dans le taf, c'est un vrai casse-tête. Franchement, j'ai tout donné.
C'est une compète qui a un mois d'existence pour l'instant, donc ça c'est normal. D'ailleurs, vous disiez aussi tout à l'heure que la prochaine serait dans 4 ans pour l'Euro. Non, c'est les places sont qualificatives aussi par Ligue pour la Coupe du Monde. Donc c'est-à-dire que ça sera le même système dans 2 ans.
Ah oui.
Mais tu veux dire quoi?
Je me suis arrêté à l'Euro 2020, les mecs.
Guillaume, t'es en train de nous dire que Nico Velas, qui a bossé toute la journée, et soi-disant, il a pas pu mettre le nez dehors. Tiens, il était pas au courant.
Et sache que les éliminatoires, ce sera début 2019.
Je ne vous félicite pas,
l'Euro 2020. Non, les gars, je me suis arrêté à l'Euro 2020.
On se repose sur toi.
Mais alors, attends. Vous n'êtes pas au courant de tous les dossiers, monsieur Villas.
Tu parles des mêmes vainqueurs de cette Ligue des Nations, enfin, des barrages par groupe, par ligue, etc. Ou alors, il y aura une autre Ligue des Nations après?
Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que, par exemple, actuellement, c'est l'Allemagne qui est peut-être la moins bien placée dans le groupe de la France et des Pays-Bas. L'Allemagne descendra en Ligue B.
En Ligue B, ouais.
D'accord. Et donc, elle recommencera la Ligue des Nations dans 2 ans en Ligue B.
D'accord, oui, tu vois, oui, dans une autre, oui, d'accord.
Comment Chini, il dit, de toute façon, moi, je m'en fous si je descends. Il a peut-être conscience de la valeur de son effectif et il se dit que ce sera peut-être plus facile de se qualifier pour l'Euro en Ligue B.
Voilà, Guillaume. Ça, j'avais compris, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, j'étais pas complètement largué là-dessus.
Il est 100% conscient que sur l'effectif,
alors que M. Villas, on est moins sûr.
Il va devoir avoir 2-3 ans pour le.
C'est un calcul risqué quand même, c'est ça que je veux dire.
Mais voilà, c'est un peu un avantage avec des nations, c'est l'avantage déjà de supprimer ces amicaux, parce que on peut pas dire que c'est des matchs amicaux déguisés, sachant qu'il y a une qualification pour l'Euro en jeu.
Mais non, il y en a pas, puisque c'est.
Via les barrages.
Mais les barrages, c'est quoi? Des barrages,
c'est quoi? Non, mais c'est 2 matchs, les barrages. C'est demi-finale, finale.
Pour la Ligue B, C et D, on est d'accord.
Non, pour Daniel. La Ligue A, B, C, D. Les mecs, on l'a refait.
Sauf que là-haut, celui qui va gagner les barrages de la Ligue A, tu l'as dit tout à l'heure toi-même.
Oui, mais ce sera l'équipe en
dessous.
Et c'est là où c'est important. Et je rejoins ce que dit Guillaume, c'est que du coup, vaut mieux terminer deuxième que troisième. Parce que si le premier est déjà qualifié via les barrages, c'est le deuxième qui passe. Donc si tu finis dernier groupe, t'es pas assuré de prendre la place du premier.
Ouais, là, et très franchement, j'ai l'impression qu'on est en train de fatiguer les gens, on est devenu ennuyeux.
Bah, les gens, je sais pas, mais moi,
franchement, c'est le calcul à faire.
Très franchement, je me suis en train de m'ennuyer moi-même, là.
Ah ouais? Tu nous ennuies aussi,
Non, mais là, moi, je m'ennuie même, là, tu vois. Ah, non, c'est usant, là.
Entrée, en fait. Elle protège encore plus les gros. C'est-à-dire que, quelqu'un qui passerait pas par les groupes de qualification qui commenceront en mars 2019 et qui finiront en 2020, s'il passe pas par les groupes classiques, peut se qualifier par la Ligue des Nations. Donc, c'est une façon de protéger les gros et c'est une façon également d'ouvrir les compétitions internationales aux petits.
Ouais, c'est ça, tu contrebalances avec un petit qui aurait jamais fait la compète.
Mais c'est déjà ça.
Ouais, mais c'est que 4 places, mais actuellement, la Géorgie et la Macédoine qui sont en tête de leur groupe dans la Ligue D, à un moment donné,
C'est le béton, Guillaume, là-dessus, hein.
Ouais. Déroule, hein.
C'est là.
Ils ont trois victoires, ils vont quasiment, je pense que le retour, ça sera pareil. Donc, ils seront finalistes en juin. Et, moi, je vais adorer regarder ces matchs. Je vous garantis que je vais plus regarder les demi-finales et finales de Ligue D. Que si l'équipe de France évidemment, mais que les matchs de Ligue A, parce que ça va être des combats.
Monsieur, il y a la Coupe du Monde des femmes. Je te prierai de respecter les hiérarchies.
On aura plusieurs télés et plusieurs écrans, c'est pas grave.
J'ai eu peur de la boulette.
C'est pour ça, moi j'adore. Tu disais Daniel qu'on est toujours dans la création de nouvelles compétitions. Moi en football, à part la Coupe des Confédérations pour laquelle je dois dire je me passionne pas, mais en football, à part la suppression de la Coupe des Coupes. J'ai 37 ans, j'ai jamais eu de création dans ma vie de compétition internationale ou compétition nationale en plus.
Oui, c'est assez rare. La compétition internationale, c'est assez rare, oui.
La Coupe de la Ligue, elle existait déjà, c'est juste qu'après, les clubs pro se sont mis à les mettre avec les vraies équipes et qu'il y a eu une place qualificative
pour
l'Europe. Donc, c'est ce qui a motivé. Donc là, ça va motiver tout le monde. Hein. Là, actuellement, si tu fais la Ligue des Nations et tu dis juste bah, « amusez-vous bien, bonne chance », je suis d'accord, c'est des matchs amicaux déguisés. Là, il y a une place qualificative pour l'Euro. Et je pense que pour la France, l'avantage, c'est que si elle se qualifie là dans le groupe qu'elle va en juin, et bien ensuite, Didier Deschamps, il pourra faire des tests l'année suivante. Avec d'autres joueurs, parce qu'il sait qu'il sera déjà qualifié.
Ok, Guillaume. Bah écoute, merci de nous avoir appelé. Voilà, t'es passionné par cette Ligue des Nations, en tout cas, toi.
Non, mais c'est bonne bien, soirée, Guillaume. Vrai, tu vois, ça nous ouvre bonne un peu l'esprit, quand même.
À bientôt, Guillaume. Salut.
Un petit peu, quand même. Salut, Guillaume.
Ouais, voilà, il est passionné, Guillaume. Il a capté le truc. Voilà. Dans quelques instants, allez, on va ouvrir la page d'équipe de France. De quoi?
On va passer à autre chose, là, non?
Laurent Koscielny, ça te dit ou pas?
Oh, putain, je suis épuisé.
Voilà, Laurent Koscielny, qui a livré une interview à mon confrère de Canal ce soir, qui était diffusée ce soir. Et il s'en prend notamment à Didier Deschamps. On va y revenir, très ému d'ailleurs, très touchant, Laurent Koscielny, dans cette interview. On y revient dans quelques instants avec Daniel Riolo et avec Pierre Ducrot. À tout de suite au 32-16.
RMC Football Show. L'Afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie de Daniel Riolo et de Pierre Ducrot. On a essayé de vous expliquer il y a quelques instants le fonctionnement de la Ligue des Nations. On va ouvrir la page équipe de France. Alors avant de se replonger, dans le France-Allemagne qui nous attend mardi, comptant pour la Ligue des Nations, justement, on va parler un petit peu de Laurent Koscielny, alors qui a livré une interview à Canal+, qui a été diffusée aujourd'hui. On vous lit certains extraits d'ailleurs de cette interview de Laurent Koscielny, alors qui est toujours blessé, qui est en phase de reprise du côté d'Arsenal, qui a raté la Coupe du Monde parce qu'il était blessé, s'est blessé juste avant le Mondial. À un moment donné, on t'oublie, dit-il. Je n'ai pas besoin qu'on parle de moi dans la presse, mais normalement les gens autour de toi sont là pour t'aider. Là, tu les comptes sur les dix doigts des mains. Didier Deschamps, je l'ai eu en septembre pour mon anniversaire, sinon je ne l'ai pas eu. Il y a des personnes qui m'ont déçu, il n'y a pas que le coach, il y a d'autres personnes. C'est ce qui m'a mis un coup de bâton derrière la tête. Et il confirme aussi un peu plus tard, l'équipe de France a une très belle génération avec de grands joueurs. Les Bleus, c'est fini pour moi. Voilà, a-t-il déclaré. On rappelle que son dernier match date de mai dernier. Vous avez très certainement suivi cette interview, Pierre et Daniel. Comment vous réagissez après les déclarations de Koscielny, qui a aussi pleuré? Il était très ému lorsqu'il a il est revenu sur sa blessure également.
Ah mais comment tu veux ne pas avoir moi je le trouve plutôt honnête et j'ai aucune peine à imaginer que quand t'es dans ton canapé et que t'es passé à ça de faire la Coupe du Monde, parce que lui s'il se blesse pas, il l'a fait titulaire etc quoi, enfin voilà, il était sûr d'aller au bout avec les autres. Comment tu veux à un moment donné ne... Il est content pour ses potes, mais tu t'es obligé d'avoir un espèce de double sentiment et voilà, moi je le comprends, c'est pas malsain du tout, c'est juste naturel, c'est juste normal, t'es passé à côté du truc le plus énorme de ta carrière, voilà. pour une blessure, tu dois vivre ça un peu comme une injustice aussi en plus. C'est comme ça, mais je le trouve honnête quoi.
Daniel.
Pareil, cette interview elle est très forte, t'as pas relevé tous les passages, mais il y a celui que je trouve le plus comment dire, le plus touchant, le plus sincère surtout, parce que très peu de gens sont capables d'abord d'exprimer ce sentiment, parce que c'est un sentiment qui apparemment et en tout cas n'est pas beau. C'est-à-dire le passage où il dit j'avais envie qu'il se qualifie, mais peut-être pas au fond de moi qu'il gagne, c'est-à-dire qu'il gagne sans moi. C'est-à-dire quelque part avouer l'égoïsme, qui est pas un sentiment généralement qu'on met en avant.
Ben non, bien sûr que non.
Il y a énormément de sincérité. C'est le genre d'interview normalement, je sais pas s'il y a une normalité là-dessus, mais tu lis des années après, soit dans un livre de confession, et tu trouves ça extrêmement touchant. Lui, avec très peu de recul sur les événements, il arrive à être touchant, à être absolument sincère, en ne se souciant pas trop finalement de ce qu'on va penser. Bon, je trouve que c'est assez fort ce qu'il dit. Il est vraiment très honnête.
Et c'est un sentiment que tu... pas tous, mais que beaucoup ont dû rencontrer dans le foot.
Exactement. Oui, je pense que le buteur, là, pour le coup, ce serait malhonnête de dire
que c'est un sentiment
que c'est de l'égoïsme et que c'est que malsain dans, chez certaines personnes. Non, mais, tout le monde l'a à un moment donné, tout le monde l'a eu.
Voilà,
tout le monde...
et que c'est pas simplement dans le foot, mais dans la vie
oui,
en
déjà,
général.
Ouais, déjà.
C'est quand on peut reconnaître même avec honte être gagné par l'égoïsme ou être piteusement réjoui du petit malheur de quelqu'un. Évidemment qu'on ne veut pas de ça, que personne n'a envie de vivre avec ce genre de choses-là, qu'on en a honte, qu'on n'en parle jamais, que c'est pas beau. Et là, lui, Koscielny, il arrive et il dit ça. Je trouve que vraiment,
c'est honnête.
C'est honnête. J'allais dire formidable, mais c'est pas formidable. Ce qui est extraordinaire, c'est son honnêteté, sa sincérité.
Oui, voilà. C'est pas,
Après, ce qu'il dit sur les uns les autres. Bah oui, le monde du foot, mais encore une fois, là, on est dans une mission de foot, donc on parle du foot, et on n'est pas là pour parler des autres milieux, qui ont aussi leur travers. Mais oui, on sait évidemment que c'est un milieu très égoïste, très individualiste, où chacun gère sa carrière avec ses agents, sa famille, et que, il est parfois difficile de concilier cette donnée-là avec le collectif qu'il y a dans une équipe qui est logiquement attenant à la pratique du foot et d'un sport co. C'est des choses que peut-être on ne sait pas complètement, mais qui existent évidemment. Alors il dit que Deschamps l'a déçu, oui, ce sera pas le premier hein, sur le côté humain du sélectionneur, mais ça on appellera. Bah,
c'était quand même un capitaine, un Koscielny, c'était un taulier quand même de cette équipe.
Oui,
de
mais alors.
Oui, tu aurais aimé qu'il soit associé, qu'on l'invite, qu'on.
Ah non, mais ne serait-ce qu'il l'appelle, qu'il dise voilà, c'est aussi un peu là. Enfin, je sais non, pas. Ça... Il a l'air très très affecté par ça.
Oui, Koscielny, mais ça, je suis d'accord, mais ce sera pas le premier à être déçu humainement par Deschamps. Excuse-moi, voilà, encore une fois, je
parle. Après, tu peux avoir quand tu es sélectionneur et que tu as une compétition comme ça à mener, tu peux aussi t'occuper que de ce qui t'intéresse, c'est-à-dire l'équipe
aussi.
Que t'as entre les mains, enfin l'équipe
mais bien
que t'as entre
sûr,
les mains.
Bien sûr, bien sûr. De toute façon, on
peut le comprendre Koscielny, tu peux aussi comprendre la gestion de Deschamps.
Absolument. De toute façon, de Deschamps, il ne faut attendre et espérer qu'une chose, parce que toute sa vie, ça n'est que ça, c'est la victoire. Il n'y a que ça. Tout le reste à côté pour lui est absolument superflu. Donc, Koscielny est déçu là-dessus. Ok, ça aussi, il le dit avec beaucoup de sincérité. Bon, voilà.
Moi, je trouve que c'est un moment
fort et rare dans le foot.
C'est le sentiment que tu as tout le temps quand tu es de toute manière mis à part, quand t'es blessé. Et c'est vrai aussi en club.
Quand
t'es blessé, t'es forcément mis à part. Voilà. Même si les autres essayent de faire des efforts. T'es plus dans le groupe et tu le sens en permanence quand tu vis une longue blessure.
Tu ne participes pas à l'aventure. Et lui. Ben je pense que c'est
puissance 1000 parce que c'est là, l'aventure
c'est la déchirure de sa vie, ce sera la blessure de sa vie. Il était bien là, sûr. Il était titulaire, il rate ça. On avait connu en 98 l'histoire des 6 exclus,
bien sûr,
qui quoi qu'ils disent et malgré les années continuent aujourd'hui d'en vouloir à Aimé Jacquet.
Oui, parce que tu passes à ça.
Bon, là c'est différent parce qu'eux ont été écartés. Donc sur des critères sportifs, là en l'occurrence lui est blessé.
Ouais, en plus
donc,
la notion
blessé,
de un peu d'injustice,
il peut en vouloir à personne,
de fatalité.
C'est différent, c'est que il peut en vouloir à ceux qui n'ont pas essayé de lui tendre la main parce qu'il était blessé. Sinon ouais. Il est titulaire. C'est pas un choix sportivement. Lui il est sur le terrain s'il est pas blessé. Donc c'est ça qui est dur à vivre pour lui.
Tu t'identifies plus facilement la personne à qui t'en veux justement. Tu vois lui pendant des mois il rumine, si tu veux. Là comme il le dit lui-même, oui il en veut peut-être un peu à Deschamps parce qu'il l'a pas appelé, c'était le sélectionneur. Mais finalement comme il le dit, il en veut à tous les gens et qui l'ont oublié finalement à cette phase-là.
Mmh. Donc, malheureusement, on est vite oublié.
Ouais. Bah bien sûr,
on est vite oublié et pas qu'en foot.
On a Kevin King qui nous dit sur l'application Direct Studio, Laurent, un super défenseur pour moi, c'était lui le taulier des Bleus, j'ai mal au cœur pour lui. C'est vrai que finalement, on l'a vite oublié finalement, Laurent Koscielny avec cette victoire.
Mais comme toujours dans ce genre de situation.
Tu gagnes.
Ouais, exactement.
Et c'est
malheureux.
La victoire, c'est ce que j'ai dit tout au long de la Coupe du Monde. La victoire au final effacera tout. La façon que t'as eu de jouer, les choix que t'as fait, le fait que pendant 2 ans t'avais pas trouvé d'équipe, que tu l'as trouvé
en cours. C'est sûr que si tu te fais éliminer au premier tour, là on te dit, il manquait Laurent Koscielny,
tu reparles du jeu, tu reparles. On met tout ce qui est sentiment de côté, et là Koscielny nous ramène à des sentiments. Voilà.
Et on a Cadrio sur le hashtag RM Salef qui nous dit Laurent Koscielny a été très touchant et surtout très honnête. Il dit les choses, bravo pour son courage, et sa franchise.
Son courage
et sa franchise.
Oui, c'est vrai.
Non, mais c'est vrai.
On a tous eu le même ressenti. Il n'y a pas de, effectivement. Enfin, je pense pas qu'il y ait des gens, pour s'y remarquer, il doit y en avoir, puisqu'il y a toujours tout et son contraire, mais qui vont oser dire que c'est quelque chose qu'il ne faut pas dire quand tu as ce genre de ressenti. Moi, je trouve bien de temps en temps de pouvoir le dire.
Bah, surtout, tu vois qu'il est pris au trip. Il est pris au trip. Dans cette interview. Alors, c'est vrai que tu le disais, hein, c'est un moment qui est relativement rare, surtout avec autant d'émotions aussi. Il a été très bon. Bravo aussi à celui qui a mené l'interview, à Raphaël Domenech. Parce que c'est pas la première fois qu'il fait des bonnes interviews aussi. Raphaël Domenech, donc, faut le dire aussi. Voilà. Bravo pour cette interview. Tiens, messieurs, je vous propose d'accueillir. Tout à l'heure, tu faisais référence à rien à voir. À Mousse, le supporter de l'OM, là, qui devait, montrer pas de blanche.
Il avait passé papier.
Alors, écoute. On a Mousse, qui est supporter de l'OM, qui nous a appelé au 32-16. Mousse, je crois que t'as envie de passer un coup de gueule.
C'est pas le même Mousse.
Et non, justement. Salut Mousse.
Salut Mousse.
Bonsoir. Bonsoir Daniel. Bonsoir à vous tous.
Ah, toi, t'as tes papiers en règle, vieux?
Les miens, ils sont en règle il y a longtemps.
Alors, qu'est-ce qui t'arrive, Mousse? Raconte-nous.
Alors, je vais vous raconter ce qui m'arrive. Daniel me connaît parce qu'une fois, il s'est croisé une fois au stade et surtout Eric me connaît. Mm-hmm. Mais avant de passer mon coup de gueule, je vais passer un petit bonsoir aux deux capots des winners qui sont Rachid Zeroual et Dani Kebaili. C'est eux les deux capots. Alors, Dani m'appelle, m'envoie un message vendredi matin. Il me dit, oh, tu as craqué, toi? Tu es devenu un fan de Mbappé et des joueurs du PSG. De quoi tu me parles, toi? De quoi tu me parles, là? Et il m'envoie l'interview du soi-disant supporter de l'OM et de surcroît abonné aux Winners. Donc.
Ah, ça, je me souviens pas qu'il ait dit qu'il était des Winners, si, le Mousse.
Si, il le dit parce que.
Ah, il le dit?
Parce que même les RG à Marseille, ils sont en train de le rechercher, lui. Parce que, au sein du groupe, là, tout le monde, j'ai reçu un million de messages.
Pensant que c'était toi.
En me demandant si j'avais pas viré ma cervelle, parce que c'est et tout. Donc, je tiens à mettre les choses au clair. Moi, Mbappé, j'en ai rien à branler, j'en ai rien à foutre. Des joueurs du PSG, j'en ai rien à branler. Voilà. Donc, c'est un supporter du PSG craqué pour Thauvin, par exemple. Voilà. Donc, là, j'aurais du mal à le comprendre.
Non, mais Mousse, permets-moi une question, Mousse.
Oui, si, bien sûr, alors, Daniel, bien sûr.
Très honnêtement, là, tu sais ce que tu sais quand les hommes politiques sont en campagne et parlent de leur parti et défendent. Là, toi, t'es bon. Alors, t'es membre des Winners. Tu fais membre donc de ce qu'on pourrait appeler un parti. Et donc là, t'arrives et t'affirmes et bon, tu fais le dur et tout. Mais tu veux pas me dire que toi, qui es fan de foot, tu peux pas dire Mbappé, j'en ai rien à branler. Tu as le droit d'avoir un cerveau et te dire c'est un super joueur.
Non, mais moi,
Tu as le droit de le dire, tu as quand même le droit à une liberté de penser, quand même.
Mais je le pense, je le garde pour moi.
Donc tu fais de la politique.
Donne-moi son maillot et passe une couffée. Voilà.
D'accord.
Je vais vous mettre à l'aise, les mecs. Même les joueurs de l'OM, il n'y en a aucun qui me fait rêver. Moi, il y a très peu de personnes. Moi, l'OM, c'est quoi? C'est les supporters, c'est l'OM, c'est le stade, c'est l'ambiance, c'est voilà tout l'environnement. Mais moi ici, il y a des personnes qui m'ont marqué l'histoire de l'OM. Bernard Tapie, pour moi, c'est un voilà. Après quelques joueurs, vous me parlez de joueurs, Carlos Moser, ça, voilà. Mais pas les giclettes qu'on a à l'heure actuelle. Et encore moins, je vais encore moins bander pour les supporters, pour les joueurs du PSG. Donc voilà. Et si tu as l'occasion de croiser Mbappé. Daniel, dis-lui qu'il se contamine pas au même état d'esprit que Neymar, là, hein, que chaque fois qu'il reçoit un petit coup d'épaule, il plonge et il fait 3 mètres de il se roule par terre pendant 3 mètres. Qu'il reste le joueur.
Ah, mais il tire bien les coups francs, quand même.
Voilà. Alors, je tenais à
bah, écoute, le message est passé, Mousse.
Bon, donc, ouais, tu n'es pas le Mousse de l'autre
voilà, soir. Voilà, il y a deux Mousse dans les Souffre Winners.
Amis marseillais, laissez ce Mousse-là
Eric
tranquille.
Dimeco, il me connaît bien. Eric, il m'a souvent croisé au stade. Mais moi, je voulais passer surtout au nom du groupe des Winners parce que
c'est
des amis là-bas. Et voilà. Donc, la chose, je
non, vous par contre, si vous trouvez le premier Mousse, lui faites rien quand même. Il a le droit d'avoir son avis, les mecs.
Ah non, mais après, il se démerde. Lui, il a son moral. Mais moi,
non,
Daniel,
pas trop loin non
t'inquiète
plus.
Pas. Je ne vais pas te demander le maillot de Mbappé. Je ne te demande rien du tout, moi. Je t'ai dit, j'en ai rien à branler.
Bon, voilà. Mousse, bonne soirée. À bientôt,
Mousse. Salut, Mousse. On t'embrasse. À bientôt.
Au quartier Mahalès.
Merci, un mot.
Et attends, et raccroche pas Mousse, parce que je crois qu'on a un t-shirt du Paris Saint-Germain pour toi. Voilà.
Ouais, ben, hein, mais vous voulez que je vous raconte une anecdote sur
vas-y,
ça,
vite fait, alors.
Vas-y.
Ouais. Eric Dimeco, il m'avait emboucané pour, à l'émission de, comment il s'appelle?
Moscato.
Ouais. Elle est PSG, c'était un moment, pour m'amuser avec lui. Il m'a dit, tu vas gagner un dernier iPhone. Il m'a envoyé un Minitel des années 75, au début. Alors, ce t-shirt, vous pouvez vous le garder, les gars. Je vous aime bien, bonne soirée, et allez loin.
Merci, Mousse. Bonne soirée, à bientôt, Mousse. Voilà, c'était sympa, voilà. Merci, Mousse, qui nous a appelé au 32-16. Dans quelques instants, l'avis tranché de Pierre Ducrot qui concerne Olivier Giroud. Ducrot ne comprend pas pourquoi Deschamps s'obstine à faire jouer Olivier Giroud. La suite de l'after, c'est dans quelques instants. À tout de suite.
RMC Football Show. L'after foot, Nicolas Villas.
Toujours accompagné de Pierre Ducrot et de Daniel Riolo. Mardi, France-Allemagne, match de la Ligue des Nations. La France qui est leader de son groupe, l'Allemagne qui reste sur une défaite 3-0 face aux Pays-Bas. On en reparlera tout à l'heure, notamment dans la foire aux questions des drôles de dames. Hashtag DDD, foire aux questions au pluriel, sur le hashtag RMC Live pour poser vos questions sur les sélections à nos drôles de dames. Sachez que Simone Rovera n'est pas là, hein, puisqu'il est souffrant, mais il sera avec nous demain. Il y a toujours 0-0, hein, c'est la mi-temps entre l'Italie et la Pologne. 0-0 entre les deux équipes. C'est la mi-temps également entre Israël et l'Allemagne, 1-0 pour Israël. Le Monténégro mène à la pause 3-0 en Lituanie. Et puis voilà, pour les autres résultats, pour le moment, on rappelle que la Russie a battu la Turquie 2-0. Petites infos également pour demain.
Sur Twitter, des gens croient que c'était le même Mousse, mais qu'il se chiait dessus et que donc il a changé. Il est venu avec un autre discours.
Florian Thauvin est forfait pour le match de l'équipe de France de mardi face à l'Allemagne. Et puis vous allez découvrir sur RMC Sport News également la compo probable de l'équipe de France, voilà, qui va arriver dans quelques instants. Avec Olivier Giroud en pointe. Et justement, l'avis tranché de Pierre Ducrot, il va concerner Olivier Giroud. Tu veux me l'envoyer ou pas? Ah, voilà, mon poulet! Voilà, il est Giroud en pointe. Avec Matuidi à gauche, Kanté, Griezmann en soutien de Giroud.
Type.
Voilà, Pogba au milieu de terrain. C'est vrai qu'équipe type.
Équipe type,
à droite, ah oui, pas voir Lucas dans les couloirs.
Sauf Kimpembe à la place d'Umtiti.
Voilà, équipe type. Umtiti. Équipe Kimpembe, pardon. On passe à ton avis tranché, mon Pierrot?
Allez.
Allez, jingle, mon poulet.
Moi, il y a un truc qui m'énerve, Jonathan, par contre, c'est quand t'emploies des mots que je connais pas. Exogène. Tu peux pas dire un recrutement qui vient de l'extérieur?
L'équipe de France affrontera donc l'Allemagne mardi, match de Ligue des Nations. L'équipe de France qui reste sur un 2-2 à Guingamp face à l'Islande. Et pour toi, et toi Pierre, t'aurais aimé voir autre chose en attaque. Tu ne comprends pas pourquoi Didier Deschamps s'obstine à faire jouer Olivier Giroud, notamment.
Alors c'est pas que je comprends pas pourquoi, parce que on a tous compris pourquoi il faisait jouer Olivier Giroud en pointe de l'attaque des Bleus. C'est parce que ça marche, parce que dans les principes que prône Didier Deschamps et dans le système de jeu que prône Didier Deschamps, Daniel aime bien caricaturer un petit peu et pas tant que ça. Il lui faut un neuf très athlétique qui peut parfois jouer autre chose que neuf, et c'est là où Daniel est parfois un petit peu trop excessif, mais il dit qu'il joue 6. C'est presque que ça. Donc je comprends pourquoi il fait jouer Olivier Giroud. D'ailleurs, ça a marché, donc on peut pas lui reprocher, et on va pas lui reprocher. Je vais aussi dire d'ailleurs que j'aime bien Olivier Giroud. J'ai énormément d'admiration pour la carrière qu'il a fait, avec beaucoup d'intelligence, parce qu'il s'est toujours appuyé sur ses qualités, jamais cherché à faire autre chose que ce qu'il savait faire, et il l'a toujours très bien fait. Sauf que, pour moi, la prochaine séance, et personne ne va me contredire, c'est l'Euro 2020. Alors, il y a une interview demain qui va sortir et qui me fera où Olivier Giroud va me faire mentir. Moi, je suis pas persuadé qu'à 34 ans, pour l'Euro 2020, Olivier Giroud sera toujours capable.
Interview dans l'équipe, hein, demain.
Ouais, interview dans l'équipe, effectivement. Que tu m'as gentiment donné. Je suis pas certain qu'Olivier Giroud, à 34 ans, sera encore à même de faire des efforts comme il a fait là en Coupe du Monde. C'est encore long, 2 ans, hein, pour attendre cet Euro 2020. Je suis pas sûr qu'en club, en plus, ça aille crescendo pour lui. J'ai plutôt l'impression que ça va devenir de plus en plus dur pour rester dans un top club et effectivement être titulaire. Il va y rester parce qu'il a des qualités, mais il aura peut-être un rôle, un second rôle, par exemple à Chelsea en ce moment. Et je me demande pourquoi, en fait, on va s'obstiner là maintenant avec Olivier Giroud et ne pas commencer à travailler autre chose. C'est pas vrai. J'ai regardé, quand on regarde la composition d'équipe qu'on nous a affichée tout à l'heure, tous les autres postes, c'est plausible que les mecs soient encore là et bien en forme à l'Euro 2020. Donc je comprends. Il y a que celui-là. pourquoi on fait pas passer peut-être un Mbappé? Alors, il y aurait une autre solution, c'est s'il y a un second profil comme Giroud qui arrive ou qui était là, jeune, tu te dis Giroud il peut continuer un an et lui on va l'incorporer au fur et à mesure, c'est exactement le même profil. Donc ça ne change rien pour notre pardon, pour notre système, pour notre fond de jeu, nos principes, etc. Puisqu'on va jouer exactement de la même manière avec le même profil. Moi, ce profil, je le connais pas. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait un deuxième Giroud ou quelqu'un de ce profil qui existe, en tout cas là dans les deux ans. Si c'est le cas, qu'on nous le dise, qu'on nous appelle, j'en oublie peut-être. Donc ça va forcément changer quelque chose, puisque soit tu vas t'appuyer sur un autre profil. Mais j'ai l'impression que ça c'est compliqué. Si un Lacazette aujourd'hui n'est pas en équipe de France, il va falloir vraiment qu'il cravache pour y être parce qu'il est un peu en pleine bourre quand même. La deuxième solution c'est de faire passer un Mbappé en pointe. Et là auquel cas ça te change un petit peu parce qu'il va falloir que tu retravailles un petit peu tes côtés du coup, etc. etc. Ça a une incidence. Et moi ma question c'est pourquoi on s'obstine toujours comme ça pour des matchs. Alors c'est la Ligue des Nations, ok, pardon, mais pour des matchs qui ont très peu d'importance finalement, si ce n'est celle de travailler pour l'Euro 2020.
Bah, notamment le match face à l'Islande, c'est à ça que
celui, celui notamment contre l'Islande et encore plus, je suis désolé, ceux contre l'Allemagne, les Pays-Bas, etc. Parce que ces matchs-là, c'est là où tu vas pouvoir travailler avec une équipe qui va être, on l'a vu contre l'Islande. C'est bon, voilà, c'est un match moyen. Mmh. Tout le monde a du mal à être à son top niveau quand même. Contre l'Allemagne, ils vont y être au top. Ils vont être là. Ils vont être concernés. Alors, l'activation mentale sera au maximum. Moi, dans ces matchs-là, j'ai très envie qu'on se rapproche, en tout cas qu'on travaille, l'équipe de France qui risque d'être là en 2020.
Alors, Olivier Giroud, cette saison, sélection plus club confondu, c'est un but marqué avec l'équipe de France. Hein. Il a 8 apparitions avec Chelsea, il n'a pas encore marqué cette saison. Son dernier but, c'était en mai dernier contre Liverpool avec les Blues. Est-ce que tu es inquiété par ses stats? Alors, c'est l'un des meilleurs passeurs de Première Ligue, oui, oui. Avec 4 passes D, c'est vrai. Il a un rôle qui est un petit peu différent.
Oui, il a un rôle différent aussi. Alors, moi, je suis pas inquiet pour lui parce que c'est un joueur, c'est un très bon joueur. Il va continuer à être performant quand il va rentrer. D'ailleurs, il le faisait déjà très bien à Arsenal l'année passée. Il l'a très bien fait à Chelsea aussi. Il va pouvoir continuer à avoir ce rôle-là. Mais en équipe de France, c'est pas ce rôle-là qu'il a. En équipe de France, il a un rôle sur le plan offensif, bien sûr, mais il a surtout un rôle dans le système de jeu bloc bas et défensif de l'équipe de France. Putain, il faut qu'il donne. Hein. J'aimerais être à sa place, remarque, mais c'est pas facile d'être à sa place. Hein. Et je suis pas sûr que dans deux ans, Olivier Giroud soit encore capable de faire ce genre d'effort. Peut-être que je me trompe. Hein, et alors, je m'en excuse auprès de lui. D'ailleurs, il y a que lui qui se sent capable. Mais est-ce que même quand tu es le joueur en question, tu peux savoir dans deux ans si tu vas être bien à 34 ans? Je suis pas persuadé. T'es peut-être pas suffisamment lucide pour le savoir tout de suite.
Daniel.
Alors, Pierre posait la question du pourquoi s'obstiner avec Giroud et je vais lui répliquer des choses très simples. Pourquoi changer alors que t'es champion du monde? Pourquoi réfléchir à une autre tactique alors que t'es champion du monde? Pourquoi aller
vers... Oui, mais
c'est
ce que je te dis, Daniel, ça.
Attends.
Ça a fait ses preuves.
C'est bon, j'arrive.
Mais ce sera plus le cas en deux ans.
Attends, il arrive, attends.
J'arrive.
D'accord, ok.
Pourquoi aller vers une autre animation alors que t'es champion du monde? Deschamps, que je sache, n'a jamais été un as tactiquement. Son travail, sa réussite, elle est ailleurs. Et pourquoi penser, parce que c'est ça qui anime ton raisonnement, pourquoi penser à l'Euro 2020, dans un peu moins de deux ans? Pourquoi travailler avant, puisque c'est ça que tu réclames, à une nouvelle animation, travailler, on va dire, l'équipe, le jeu de l'équipe, alors que on a une évidence, je sais pas si ça concerne toutes les nations, mais en tout cas la nôtre, on a eu une évidence pendant cette Coupe du Monde, c'est que les deux ans qui ont précédé la Coupe du Monde n'ont servi à rien.
C'est pas faux. Je suis d'accord avec toi, c'est mon
argument massue. Ah, en fait. Ouais. C'est pendant deux ans qui ont précédé la Coupe du Monde, on était déçus à chaque fois qu'on voyait les Bleus. On ne comprenait pas l'animation, on avait des doutes même sur la défense, sur le caractère de Varane Umtiti. Je parle même pas de l'animation offensive. Sur Giroud, éternellement. Sur,
alors qu'il marquait,
ouais, exactement. En plus, à ce moment-là, il était plutôt bien. Sur Benzema, pas Benzema, retour de machin, truc. De où on va faire jouer un tel et un tel. Rappelle-toi les interminables débats sur le positionnement de Pogba. Mm-hmm. Sur est-ce qu'il doit jouer dans la défense? Est-ce que tu dois jouer à 3? Est-ce qu'il doit jouer à gauche? Est-ce qu'il doit jouer à droite? Est-ce qu'il doit jouer en haut, à gauche, dans un 4-4-2, un 4-3-3? Et au final, on s'est aperçu de quoi? Que l'équipe, elle s'est trouvée pendant la Coupe du Monde.
Mais c'est ce qui a changé.
Pendant justement la compétition.
En fait, il n'y a rien à comprendre, mais
je suis d'accord avec ton raisonnement aussi.
Pendant la Coupe du Monde, que Pogba a totalement changé son jeu et s'est trouvé dans un double pivot avec Kanté,
que Matuidi a joué dans une position de faux ailier, enfin de couloir gauche
Matuidi sera peut-être,
hybride.
Sera peut-être le, pour moi le second cas d'incertitude pour l'Euro 2020, justement.
Oui. Tu vois. Mais quand tu vois les changements entre, on va dire l'aventure des chances, c'est Coupe du Monde 2014, Euro 2016. Et là, en fait, ce qu'elle a trouvé, cette équipe de France, c'est pas tant... alors, évidemment, il y a des joueurs clés. Mais c'est pas tant une animation,
une place quand même.
C'est pas tant une animation et une façon de jouer qu'un caractère et une façon d'aborder les matchs, c'est-à-dire en étant extrêmement solide et en essayant d'être efficace ouais. sur le peu d'occasions que tu vas avoir.
C'est une façon de jouer.
Aussi,
c'est une façon de jouer.
Bien sûr.
Mais
ce sur quoi on a débattu pendant deux ans, n'a finalement, c'est pour ça qu'en fait, et c'est vraiment ça le style
donc,
Deschamps.
Donc tu veux me dire qu'à l'Euro 2020, en fait, on va, peu importe ce qu'on aura vu avant,
exactement.
Il changera, ce qui compte, c'est la compétition. Si Giroud n'est plus disponible à ce moment-là, il mettra un Mbappé en pointe et exactement. Ça marchera parce qu'on s'appuiera sur les.
Exactement.
Sauf que je suis pas persuadé. Si tu veux t'appuyer, parce que Deschamps nous a toujours habitués à ça, il a jamais joué autrement. Deschamps qu'avec ces équipes effectivement où le côté ouais. État d'esprit est très important, mais avec un bloc bas quand même et pour aller vite devant. Je suis pas sûr, parce que pour le faire bien avant de monter sur Mbappé rapide devant qui fait la différence, etc., tu dois avoir ce bloc bas et très solidaire. Et là-dedans, Giroud avait un rôle majeur. Je suis pas sûr qu'Mbappé soit capable, il est capable de plein de choses, mais soit capable de travailler autant que Giroud sur le plan défensif.
En fait,
tu vois.
Mon seul doute, c'est l'état physique de Giroud en 2020. C'est ça en fait la clé de ton raisonnement.
Ouais, c'est
moi
en fait
je te dis, tu verras
certitude.
Moi je te dis tu verras.
Est-ce qu'il sera capable de donner autant que ce qu'il a donné en 2018.
Franchement, pour moi c'est illusoire. On ne travaillera pas l'animation offensive autrement.
Ah, t'as peut-être raison.
Regarde le match contre l'Islande. T'es mauvais.
Ce qui n'empêche pas que j'aurais
mené 2-0. Mbappé rentre, il te fait le sauveur. Il met le feu, machin. Ouais. Mais voilà, c'est juste que tu n'avais pas tes cadres, cette équipe qui maintenant est gonflée de confiance. Sait comment elle joue, sait trouver son style.
T'as beaucoup moins de questions qu'avant la Coupe du Monde.
Tout le monde a révélé à la fin. Griezmann a parlé du style en disant que ça lui allait bien, que c'était bien comme ça, qu'ils étaient chiants à jouer, Varane, tous en ont parlé. Pogba a trouvé sa place, a épuré son jeu. Tu vois, à Manchester, il continue à être exactement comme avant la Coupe du Monde. Équipe de France. Bon, on va voir demain, après-demain soir, comment ça va se passer. Mais cette équipe, elle s'est trouvée pendant la compète. Et maintenant, en fait, elle ne va être que compétitrice. Ce qui va se passer avant, quand on voit ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde, c'est, à mon sens, à relativiser complètement. Non,
la différence entre Daniel et, entre ce que dit Daniel et ce que je dis, c'est
toi, qu'en fait, que ça change.
Moi, c'est ce que j'aimerais. Et Daniel nous parle de ce qui va se passer, sûrement.
Voilà.
Et moi, je parle de ce que j'aimerais.
Toi, t'aimerais qu'il anticipe, qu'il bosse déjà pour
compte comment ça pourrait être sans Giroud un petit peu.
Pendant deux ans, j'ai espéré que ça travaille, qu'on essaye de voir de l'animation et qu'il se passe quelque chose.
Donc t'as arrêté quoi.
À l'arrivée, quand la Coupe du Monde démarre, évidemment, comme beaucoup, je vois même pas comment une seule minute on peut s'en sortir. Et puis, après le match contre le Pérou où le style est trouvé, vraiment, je dis bon, avec ce style que moi, qui me plaît pas, tout le monde le sait, j'exclus pas que la France aille au bout. Bon, elle est allée au bout. Après, chacun en pense ce qu'il veut.
Poursuit ce débat.
Elle s'est trouvée pendant, donc. Le débat un an et demi avant, Pierre.
On poursuit ce débat dans quelques instants.
J'anticipe trop.
On sera avec Eric. On sera avec Eric qui nous a appelé, supporter de l'équipe de France, qui nous a appelé au 32-16.
Et puis,
tiens, je te poserai la question également de savoir.
Invite Nico chez toi et puis tu lui parles de ça, je sais pas.
Oh, moi je veux bien.
Non, les chefs. Si j'invite, c'est moi, il va me parler de la Ligue des Nations, lui.
Ah ouais. Non, laisse tomber.
Voilà. Et tiens, dans quelques instants, on poserai la question, puisque t'aimerais qu'il bosse sur l'avenir, qui t'aimerais voir toi en pointe? Parce qu'il y en a pas mal qui plantent des Français en ce moment en Europe. Bref, on vous attend pour débattre avec Daniel et avec Pierre. Dans quelques instants, à tout de suite pour la suite de l'After.
RMC Football Show, l'After Foot.